Oui, alors on a choisi de parler du mythe d'Œdipe. Et je proposais d'en parler aussi parce que moi j'étais particulièrement touchée par la rencontre de ce livre, Œdipe intérieur, écrit par Annick de Souzenel, qui fait en fait ce que j'appellerais une réinterprétation spirituelle du mythe d'Œdipe. Je trouvais ça particulièrement important dans mon parcours, mais aussi d'en parler aujourd'hui, parce que bon, déjà je suis psychologue et que c'est un thème central évidemment. Parce que c'est devenu, à partir d'une interprétation psychanalytique freudienne, un complexe, avant toute chose, ce mythe, et que Freud a placé au cœur de toutes les névroses, dont les névroses de notre siècle, au XXe siècle et XXIe siècle de notre temps. Et puis, donc je pense que ça fait partie aussi vraiment de notre patrimoine culturel collectif, à la fois moderne et ancien, c'est-à-dire que tout le monde connaît même la version vulgarisée un petit peu du complexe d'Œdipe. Donc je trouve important de pouvoir prendre connaissance d'une autre façon de voir les choses qui peut-être va nous éclairer autrement. Voilà. Et en particulier à partir du thème de l'union, parce que vous allez voir que ça, c'est central dans ce mythe, telle qu'en tout cas le présente Annick de Souzenel. Donc je n'ai pas inventé grand-chose, hein. Là je vais vraiment... mon travail a surtout consisté à sélectionner pour vous les grandes étapes, parce que Annick de Souzenel, elle est extrêmement, on va dire, rigoureuse dans ses interprétations. C'est une grande exégète biblique de culture chrétienne orthodoxe, mais qui a une grande connaissance... du judaïsme, de l'hébreu, etc. Donc c'est très détaillé, je trouve ça très intéressant. Pourtant c'est court, hein. C'est pas, voilà. Mais c'est riche. Donc moi j'ai choisi quelques grands thèmes pour aujourd'hui. Mais vraiment je lui ai tout emprunté, je vous le dis directement. Voilà, donc on va commencer tout simplement par rappeler le mythe. Donc elle s'est basée, Annick de Souzenel, sur deux versions. Œdipe roi de Sophocle, et puis les Phéniciennes d'Euripide. Œdipe, ça date dans les deux cas à peu près de entre 420 et 405 avant Jésus-Christ, donc ça, c'est des textes très anciens. Alors, le mythe, bon, je rappelle un petit peu le récit, après on rentrera dans le détail. Donc avant la naissance d'Œdipe, ses parents, Laios et Jocaste, consultent l'oracle de Delphes, qui leur prédit que s'ils ont un fils, celui-ci tuera son père et épousera sa mère. De peur que cet oracle s'accomplisse, dès qu'ils ont mis au monde cet enfant et qu'ils se rendent compte que c'est bien un fils, ils le font exposer encore nouveau-né sur le mont Cithéron, après lui avoir fait percer les chevilles pour l'accrocher à un arbre. C'est de là que lui viendrait son nom Œdipe, Œdipus, qui veut dire pied enflé. Alors, ensuite, il va être recueilli par des bergers et apporté par ceux-ci au roi et à la reine de Corinthe, Polybe et Mérope, qui vont l'adopter et l'élever. Après, l'histoire reprend lorsque Œdipe est un jeune adulte, et au cours d'un banquet, un homme accuse Œdipe d'être un enfant supposé. Œdipe décide donc de partir pour Delphes afin de savoir de l'oracle si Polybe et Mérope sont bien ses vrais parents. Cependant, l'oracle ne répond pas à sa question et lui dit à la place ce qu'il avait dit des années auparavant à Laios et Jocaste, qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Effrayé, Œdipe décide de ne jamais retourner à Corinthe pour éviter que l'oracle ne s'accomplisse. Sur la route, à un carrefour, il rencontre un vieil homme sur un char. Ils se disputent pour des histoires de priorité dans le passage et en viennent aux mains. Œdipe tue le vieil homme sans savoir qu'il s'agissait de Laios, son père. À cette époque, le sphinx ou la sphinge désolait les environs de Thèbes, dévorant tout passant qui ne devinait pas ses énigmes. Créon, successeur de Laios, avait promis le trône et la main de Jocaste à qui tuerait le sphinx. Œdipe, ayant deviné l'énigme, devint roi et épousa sa mère sans la connaître. Ils ont eu, Œdipe et Jocaste, 4 enfants, 2 fils, Étéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Ensuite, dans la version de Sophocle, Œdipe roi, il y a une suite à l'histoire, Sophocle représente la découverte par Œdipe de ses crimes. Car pour sauver Thèbes, en proie à une terrible peste, Œdipe doit découvrir et punir le meurtrier de Laïos. Au fil de ses recherches, il découvre qu'il est lui-même le meurtrier, que c'est son véritable père qui l'a tué et qu'il a en outre épousé sa mère. Un second oracle ayant révélé ces faits, Jocaste se pendit et Œdipe, après s'être arraché les yeux, quitta Thèbes, guidé par sa fille Antigone. Voilà. Voilà qui semble joyeux. Bon. Alors, moi, je vous propose, à partir de là, de reprendre, un peu dans l'ordre, 6 étapes qui correspondent aussi à 6 grands thèmes dans ce mythe, mais pas que seulement dans ce mythe. C'est ça que je trouve assez intéressant. C'est ce que Annick de Souzenel appelle des mytho-logèmes. C'est des éléments de base communs à plusieurs mythes. C'est-à-dire, c'est des thèmes qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de mythes, que ce soit des mythes grecs ou des mythes bibliques dans notre culture la plus proche. Voilà. Donc ça nous donne aussi, c'est ça qui me semble aussi important là, ça nous donne aussi des clés d'interprétation symbolique de nos héritages mythologiques. Alors le premier thème que j'aime beaucoup est celui de la double filiation, qu'on retrouve dans beaucoup de mythes, c'est-à-dire, vous souvenir, le plus connu ça va être aussi Moïse, c'est que des parents abandonnent leur enfant, et puis donc ils sont adoptés par d'autres parents, et ils découvrent que très tardivement que finalement leurs parents, qui croyaient être leurs parents, ne sont pas leurs parents. Alors l'interprétation psychanalytique qui en a été faite, je vais un petit peu simplifier, hein, peut-être en prenant risque un peu de vulgariser, mais l'interprétation majeure, c'est que c'est une façon d'exprimer nos angoisses d'abandon. Là, il y a ce que propose Annick de Souzenel est tout à fait une autre grille de lecture. C'est que, en fait, cela renvoie justement à une certaine vision de l'être humain qui concerne notamment la double origine de l'homme. L'idée qu'on a, en effet, 2 origines, l'une céleste, l'autre terrestre, et que, en réalité, nous sommes 2 en un. Et que, donc, on a une double polarité on marche sur 2 pieds, on va en parler. On a une part finie, une part infinie, une partie de nous-mêmes conditionnée, une partie de nous-mêmes inconditionnée, une partie matérielle, charnelle, corporelle, une partie spirituelle, etc., etc. Donc cette double filiation est l'indice, nous donne l'indice de cette double origine. Sur ces points-là, je vais passer un petit peu vite parce que je voudrais surtout m'attarder sur les points qui concernent notre thème de l'union un peu plus tard. Sauf que, justement, on aurait 2 pieds, mais on marcherait d'abord, en premier lieu, plus spontanément que sur un seul. C'est pour ça que nous serions, comme Œdipe, tous boiteux. Donc ça aussi, l'homme boiteux, Annick de Souzenel rappelle que c'est une infirmité très courante dans la mythologie. Elle fait référence notamment, elle rappelle aussi que ce fut le cas de Jacob dans la Bible. Et l'homme boiteux, ce serait justement l'homme qui n'a qu'une connaissance partielle de lui-même, tout simplement, qu'une conscience partielle de lui-même, et qui ne se connaît que sous ses aspects visibles, que dans sa partie matérielle corporelle, que dans sa partie finie, que dans sa partie conditionnée, etc., etc., et qui ignore son autre côté. Donc, c'est le cas de départ de Œdipe, qui, avec son pied enflé, en fait, boite. Ça va être une blessure dans son ego, on peut dire comme ça, qui plante le germe du doute sur le qui suis-je et par lequel va commencer son chemin. Quand on lui dit qu'on l'insulte, il prend comme une insulte le fait qu'on doute de la paternité et maternité de ses parents, et qu'on le prend pour un bâtard. Donc c'est là où il va, où commence le chemin avec l'apparition, l'émergence de la grande question « Qui suis-je ? » C'est celle qui va poser à la pitié de Delphes, Et ça symbolise qu'il va partir, à partir de ce moment-là, en quête de ce qu'il est en profondeur, en quête de sa réelle identité. Alors, maintenant on va arriver justement aux étapes de ce chemin. Donc, ce mythe, comme ça aussi, Dube de Souzenel le rappelle, tous les mythes sont des récits comme ça de l'homme en quête de soi-même, hein, de son identité profonde, et qui à chaque fois nous parle de différentes étapes de ce chemin. Donc là, la première étape, et eh ben à peine il repart de la consultation de la Piti, en chemin inverse, il va tuer Layo sans savoir que c'était son père biologique ou son géniteur. Alors, ça, là, elle explique ce que symbolise Laios dans ce texte. Il y a plusieurs interprétations. Alors, toujours, hein, ça aussi, les interprétations sont pas uniques. Ce sont des récits polysémiques. Les symboles sont toujours très ouverts. Donc, là, on en propose un sens à partir surtout du travail technique de Souzenel, mais on peut en considérer plusieurs. Donc là, concernant ce meurtre, j'en proposais deux, celle d'Annick et une qui m'avait été suggérée par Abdeno. Quand on avait parlé ensemble de tout ça, ça nous arrive de parler. Donc, alors elle explique pourquoi, en fait, elle revient, elle a fait un gros travail de recherche, hein, ça c'est Anne de Souzenel. Et en fait, bon, parce que c'est des grandes généalogies, hein, aussi dans les mythes grecs, il y a des grandes généalogies, donc des descendants, etc., comme on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Et donc, elle est remontée à la source de qui était Laios, etc. Bon, bref, et ce dont elle rencontre, mais je vais le résumer, c'est qu'il symbolise pour elle le diviseur. Hein. Celui qui, d'ailleurs, n'a pas réussi dans son processus d'unification, qui a échoué dans son processus d'unification intérieure, et qui est resté dans la division, pour dire les choses simplement. Donc elle dit la chose suivante, là je la cite, « Tuant Laios et son cocher, Œdipe tue symboliquement en lui-même le maître de l'exil, l'artisan de toute infirmité, celui de toute séparation, le diviseur Diabolos. » Donc ça, en fait, ça symboliserait, comme ça rejoint ce qu'on disait un petit peu hier, ça symboliserait, on peut dire de plusieurs façons, une désidentification au moi égo, à l'homme boiteux, l'homme qui marche que sur un seul pied en pensant qu'il marche bien, une sortie de l'ignorance première, une sortie de la pensée duelle aussi, on parlait hier de la conscience séparée qui cherche à s'unifier, en rappelant aussi que division, c'est vision d'eux, vision du elle, hein, et donc une sortie l'état, ou une prise de conscience en réalité, à ce moment-là, de la conscience séparée qui donc nécessite d'être unifiée. Ça implique aussi, donc ça aussi c'est le thème de la mort, et donc là c'est à chaque fois, bon, l'assassinat correspond à quelque chose qui meurt en soi-même en réalité, tous ces événements qui ont l'air extérieur et qui nous effraient, j'ai vu des réactions là, quand je relisais le mythe, correspondent symboliquement en fait à un processus intérieur. Donc là, ça parle aussi du thème de la mort à soi-même, c'est-à-dire de ce qu'il faut, s'agit de quitter, de ce qu'il s'agit de dépasser en soi-même pour avancer sur le chemin. Donc l'idée là, c'est aussi que pour avancer sur le chemin de la connaissance de soi, il faudrait mourir un certain nombre de choses. À quoi ? Ça, c'est une question qu'on peut tous se poser à soi-même. Peut-être qu'il s'agit de mourir à tout ce qui nous sépare de nous-mêmes, de tout ce qui nous divise, de tout ce qui nous laisse dans l'ignorance de notre être vrai, tout ce qui nous maintient dans la désunion, dans l'illusion, etc., dans l'erreur. Bon, voilà. Donc, le chemin, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié dans d'autres traditions, commence aussi souvent par une prise de conscience qui entraîne des morts, en fait, des morts symboliques, c'est-à-dire des morts à des représentations anciennes, des morts à une certaine vision des choses, etc., etc. Bon. Ce qu'avait ajouté Abdenour, ce qu'avait un peu dans la continuité, quand on en avait parlé, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que tu le généralisais aussi, tu me corrigeras si je me trompe, sur le thème du meurtre du père ou de la mère dans les contes ou les mythes et les légendes. Tu disais que ça symbolisait une étape décisive dans le processus d'individuation concerne notre, qui symbolise notre autodétermination fondamentale. C'est-à-dire l'idée qu'on retrouve abordée dans toutes les traditions de sagesse au travers du thème de la seconde naissance, de la résurrection, c'est-à-dire que l'être humain, pour devenir pleinement lui-même, a à renaître à lui-même, de et par lui-même. Voilà. Donc c'est l'idée que... Alors ça rejoint aussi cette idée de la double filiation, c'est qu'on aurait une naissance et des géniteurs extérieurs à nous-mêmes, mais qu'après il y aurait une naissance intérieure à réaliser. Voilà. Après... Donc, une fois que c'est fait, ça, on n'en est encore qu'au début. Tout le chemin est encore à parcourir. Alors, l'étape suivante, qui est aussi très intéressante et qui commence à vraiment nous faire entrer au cœur de notre sujet, c'est la rencontre avec le monstre, qui est la sphinge, le monstre dévorateur, et la réponse à son énigme. Le monstre, là, il représente deux choses. D'abord, il représente le monstre tout court, Annick de Souzenel l'explique très bien, que tous les monstres dans les mythes, mais ça s'étend sans doute aux contes et légendes, représentent nos énergies potentielles encore non intégrées. Voilà. Et en fait, elles nous semblent monstrueuses, effrayantes, et même dangereuses, justement qu'aussi longtemps qu'on ne les a pas intégrées. C'est-à-dire tant qu'on les rejette, tant qu'on les laisse... à l'extérieur, tant qu'on les apprivoise pas, qu'on les dompte pas, qu'on les oriente pas, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas un usage bénéfique, fécond, harmonieux, etc. Donc ça, c'est simple, ça renvoie dans nos vies à chacun, je sais pas vous, mais moi, des choses simples. Par exemple, moi, je vois très fréquemment cette idée que qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de nos énergies, notre potentiel agressif, hein. Est-ce qu'on le laisse de côté, on s'autorise pas à l'employer, et en fait il fait des dégâts ou il passe par là où on ferme la porte, ça revient par la fenêtre, vous voyez, c'est-à-dire qu'il revient de manière elle revient de manière détournée, etc. Ou est-ce que on apprend à en faire un usage constructif, etc., etc. Bon, ça c'est pour donner un exemple simple. Mais le monstre, il représente aussi, alors là encore, elle est revenue dans la généalogie, elle dit selon une certaine version du mythe, ce serait la sphinge, ou le sphinx serait une fille bâtarde de Laios, donc en fait, serait la sœur d'Œdipe. Et là, on retombe sur un grand mythologème, qui est la rencontre avec la sœur. Donc, et aussi dans les mythes, c'est-à-dire l'idée aussi, donc qui est la sœur, que symbolise la sœur lorsque le héros est masculin. Ça va dans le sens inverse quand c'est l'inverse, le frère pour une héroïne féminine. Ça symbolise justement, si on reprend notre image de l'homme au début qui marche sur ses deux jambes, l'autre côté. Hein. Le côté non accompli de moi-même, insoupçonné, encore inconnu, encore mystérieux, encore indompté, non intégré, etc., etc. Voilà. Dans l'idée aussi, ça nous rappelle tout simplement notre situation, que nous, les êtres humains, on a paradoxalement à devenir ce que l'on est, c'est-à-dire que comme si tout était en potentiel, existait en potentialité à l'intérieur de nous, mais que on avait à la faveur des premières circonstances de notre vie, c'est-à-dire notre milieu, notre environnement, notre éducation, développer, exprimer certaines parties de nous, et que d'autres sont restées latentes, sont restées non écloses, en jachère, etc., etc. Et qu'au cours de notre existence, dans le chemin de vie, il y aurait comme ça la nécessité d'aller exprimer notre plein potentiel, c'est-à-dire développer l'ensemble de nos facultés, l'ensemble de nos... des dimensions de notre être, etc., etc., pour devenir plein et entier. Donc là encore, si on se pose une question concrète à partir de ça pour nous, c'est peut-être quel est mon autre côté, ou quels sont les aspects de moi-même qui sont encore qui sont en attente de moi-même, hein, qui sont en attente d'être déceler, révéler, cultiver, etc. etc. Et alors, donc ça, je trouve ça particulièrement important, parce que donc comment Œdipe va vaincre le monstre, c'est pas en le tuant du tout, c'est en répondant à l'énigme qui concerne en fait la réponse à l'énigme, c'est l'homme. En fait, c'est l'énigme concerne une définition de l'homme. Ce que je l'ai écrite d'ailleurs. Je vais vous la rappeler. Bon, on va pas le développer parce que ça mériterait vraiment. On avait fait ça une fois au Sésame, un vrai développement. Où est-ce que je l'ai mis ? Tu t'en souviens par cœur, Abdelon ? Je l'ai mis quelque part. Il est où, mon ami ?
Qui est l'être qui marche sur deux pattes le matin ? Quatre pattes le matin ? Sept pattes.
Ah oui, c'est mangé.
Deux pattes le midi.
Tu veux le lire ?
Non, il nous reste jamais.
Qui sur Terre est un être à deux, à quatre, à trois pieds, dont la voix est unique. Seul, il change sa nature parmi ceux qui se meuvent sur le sol, en l'air et dans la mer. Mais quand il marche en s'appuyant sur plus de deux pieds, c'est alors que ses membres ont moins de vigueur. Là, c'est une traduction qui a été faite par Vernant, Jean-Pierre Vernant.
Ben oui.
Voilà. Que Nick de Souzenel le rappelle. Nous, on connaît plus cette énigme sous la forme, en effet, tu disais, qui marche le matin à quatre pattes, le midi à deux et le soir à trois. Ce serait l'homme. Mais bon, vous voyez comment elle est un peu plus riche, celle-ci. Comment ? Oui, bien sûr. Qui sur Terre est un être à deux, à quatre, à trois pieds, dont la voix est unique ? Seul, il change sa nature parmi ceux qui se meuvent sur le sol, en l'air et dans la mer. Mais quand il marche en s'appuyant sur plus de deux pieds, c'est alors que ses membres ont moins de vigueur. Bon, en tous les cas, ce que moi je trouve particulièrement intéressant, c'est que justement, ça, moi je me le rappelle souvent et j'en parle souvent aussi à des personnes, des chercheurs, bah que la question « qui suis-je ?» nous amène à la question « qu'est-ce que l'être humain ?» tout simplement. C'est-à-dire ça nous indique aussi peut-être là une piste importante, parce que nous sommes avant toute chose des êtres humains particuliers, peut-être unique en notre genre, mais pas en notre espèce. Donc, ça nous donne aussi comme indication que la connaissance, le chemin de la connaissance de soi, on passe par comprendre l'être humain dans sa spécificité, dans sa fonction, peut-être aussi sur Terre, etc. etc. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous voyez, mourir à certaines choses, peut-être à son moi, à son identification partielle, etc., etc. Intégrer ses énergies potentielles, c'est-à-dire, nous on dit souvent comme ça, Sésame, faire feu de tout bois, quoi. Hein. Presque comme si pour aller au bout du chemin, c'est un chemin tellement long, difficile et exigeant qu'on va avoir besoin de toutes nos énergies. On peut rien laisser de côté, rien. Tout utiliser, quoi. C'est-à-dire... Et donc, une fois qu'on aurait épousé comme ça à l'intérieur toutes les sœurs, tous ces mariages intérieurs avec les sœurs, c'est-à-dire les contraires complémentaires, toutes les parties qui sont appelées à participer, eh bien, on en arrive à l'étape de les épousailles avec la mère. Parce que c'est la récompense. Il épouse sa mère en tant que récompense de cet effort. Donc ça aboutit à ça. Alors là, bon bah vous connaissez l'interprétation psychanalytique. Bon, c'est-à-dire que ça a été d'ailleurs beaucoup, tout simplement interprété comme un inceste, qui viendrait parler de nos désirs inconscients pour le parent du sexe opposé, et qui d'ailleurs nous mettrait en rivalité avec le parent du même sexe, etc. etc. Bon, je passe de commentaires, ce que j'en pense. L'interprétation que là on donne à Nick, mais je trouvais des choses très intéressantes, j'aurais peut-être pas le temps de vous les dire, mais je vous les montrerai si vous avez envie. Bien sûr aussi chez Jung, avant Annick de Souzenel, qui l'avait déjà dit avant, Mircea Eliade aussi, on a parlé, sur le mythe d'Œdipe, ils vont tous dans cette même direction, ils disent, bah, en fait, qu'est-ce que représente la mère, symboliquement ? c'est pas la mère, il s'agit pas, comme toujours dans les symboles, enfin, dans les récits mythologiques, c'est pas la mère. C'est pas la mère biologique, c'est pas la. À prendre au premier degré, qu'est-ce que symbolise la mère? Eh bien, la mère représente la source de l'être, l'origine, etc. etc. Donc, Annick de Sounel dit la chose suivante. En fait, il s'agit des épousailles d'Œdipe avec sa mère des profondeurs. Beaucoup plus beau. Œdipe est appelé à épouser sa mère, Jocaste, matrice de son intériorité, et à naître d'elle. D'ailleurs, elle rappelle que étymologiquement, alors là aussi, hein, aucun nom dans les mythes ne sont choisis par hasard. Ils nous semblent tous très... folkloriques parfois, mais en fait, ils ont un sens très, très précis. Et donc, Jocaste ou Épicastée signifie pureté divine ou pureté au-dessus. Donc, il va épouser sa pureté, s'unir à sa pureté divine, c'est-à-dire à sa pureté au-dessus. Alors là, ça me semble particulièrement intéressant parce que même si on prend un peu au sérieux c'est-à-dire l'interprétation plus littérale, il est vrai, moi j'ai beaucoup travaillé avec des enfants en CMPP, etc. Il est vrai que le petit enfant, c'est un constat, hein, peut témoigner entre 3 et 5 ans un intérêt particulier, une attraction particulière pour le parent du sexe opposé. Et commencer à dire non à l'autre parent, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, plutôt que de peut-être n'y voir que des désirs inavouables et qui nous mettent mal à l'aise, surtout les adultes, eh bien, d'y voir que, plutôt qu'une attirance, l'attirance comme ça, l'inclinaison vers le sexe opposé, vers le parent du sexe opposé, exprimerait déjà ce rendez-vous qu'on a avec cette complémentarité qu'on va rechercher après tout au long de notre vie, et dès le plus jeune âge, ça commence en fait, voilà, tout simplement. Donc ce ne serait pas une attirance sexuelle, mais une attraction spirituelle, hein, un besoin de se compléter, d'aller vers la partie de soi, enfin vers l'autre qui représente le mieux, qui manifeste, qui exprime ce qu'on contient en nous d'une façon encore en germe, quoi. Et qu'à son contact, on cherche c'est par le contact, comme ça, qu'on cherche à le faire éclore, à le faire germer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui en ressort? C'est qu'il y a 4 enfants qui sortent de cette union, 2 garçons, 2 filles, donc là encore, parité, masculin et féminin, parfaitement équilibré, parfaitement complémentaire. Annick de Sounel parle à ce titre de fécondité de l'âme. Voilà. C'est-à-dire que, là encore, si on revoit tout ça comme une conscience qui part à la découverte de son âme, comme un cheminement de l'âme vers elle-même, vers sa source, eh bien, quand la conscience ou l'âme s'est abreuvée à sa source, a rejoint, s'est unie à son point de surgissement, eh bien, en est une fécondité particulière dans le monde. Voilà. Et donc, dernière étape du récit, mort de Jocaste et mutilation des yeux. Donc, là où on voit sur le sens extérieur ou obvie, le sens évident, encore un drame qui s'ajoute au drame et qui s'ajoute au drame, et pour nous dire que tout ça, c'est vraiment pas bien du tout, ou pour nous donner l'impression que ça, c'est pas bien du tout, eh bien, en réalité, Jocaste, la mort de Jocaste là, est la conséquence de l'union. C'est qu'elle est intégrée. Étant intégrée, elle n'existe plus en tant qu'extérieure, parce qu'elle représente le pôle féminin, le pôle yin, ou le pôle encore non accompli d'Œdipe, qui maintenant l'étant, eh bien, n'est plus extérieur mais intérieur, donc disparaît sous sa forme extérieure. C'est ce que dit très justement Annick de Sounel. Et l'arrachement des yeux, qui est interprété aussi de manière plus psychanalytique comme une automutilation punitive liée à une culpabilité insupportable. Et symboliquement interprété par Annick de Sounel, où j'en suis, comme en fait l'aveugle dans les mythes symbolise l'éveillé. C'est l'éveil, en fait. Et surtout celui qui n'a plus besoin de la lumière extérieure pour s'orienter, se diriger dans la vie, qui ne s'oriente que par l'œil intérieur, la vision intérieure, etc. À ce titre, elle dit quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi j'arrive pas à nous faire dans mes plaines ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah voilà, c'est là. Elle dit... voilà, Œdipe s'arrache les yeux à la vision du monde extérieur pour les ouvrir à celle de son intériorité. Il est devenu frère, à ce moment-là, de tous les aveugles des mythes qui font ce grand voyage nocturne pour atteindre à la lumière. Jacob, Jonas, Tobie, Samson chez les Hébreux et l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament.
Tirésias,
qui est dans le même mythe, dans la version de Sophocle, il y a une mention à Tirésias, etc. Donc, vous voyez, derrière ce drame psychologique, j'ai envie de dire, se cache, ou en tout cas, potentiellement, c'est à nous après de faire aussi le choix de quelle signification nous parle et à laquelle on accorde du crédit, eh bien, le récit, en fait, d'un chemin spirituel abouti, voilà, qui va jusqu'à son total aboutissement. Donc, Œdipe n'est pas... Œdipe est un éveillé et pas un monstre, je veux dire,
incestueux
qui a fini dans la, dans la honte, accablé, etc., etc. Donc je finirai par ça. Annick de Sonnette dit à cet égard que elle dit en fait, dans l'ordre ontologique, l'homme avec un grand H. Donc l'homme et la femme, avec des petits H et petits F, l'homme avec un grand H, doit épouser sa mère des profondeurs. Dans l'ordre ontologique, nous devons épouser notre mère des profondeurs, celle de laquelle nous avons à renaître à nous-mêmes. L'idée que c'est que nous serions pleinement humains que lorsque nous serions divinisés en ayant réalisé tout notre potentiel créateur jusqu'à nous être entièrement régénérés nous-mêmes. Donc, pour le sujet du jour, moi, ce que je trouvais particulièrement fécond, c'est cette idée d'union d'épousailles que nous suggère les mythes avec la sœur ou avec la mère. Ces autres côtés de nous-mêmes, c'est-à-dire ces contraires complémentaires que nous aurions à intégrer. L'union avec la mère, c'est-à-dire avec la source elle-même, c'est-à-dire peut-être l'union suprême. Et que d'ailleurs, la série des mariages intérieur, souvent Annick de Sonnette rappelle ça comme ça, elle dit que dans les mythes quand je sais plus qui, Abraham a 4 femmes, ou, c'est en fait une série de mariages intérieurs, chaque femme représente une partie de lui-même qu'il va intégrer, et bien la série de ces mariages intérieurs conduirait aux épousailles suprêmes que serait avec ce que représente la mère, c'est-à-dire la source elle-même ou notre soi ou notre divinité en nous-mêmes, peu importe comment on le nomme. Voilà. C'est tout.
Merci.